Vous vous en doutiez, je vous écris encore. Quoi que vous fassiez, c'est à la vie, à la mort. Tant de choses à vous dire, à n'en plus pouvoir. Il n'y a rien de pire que la fin d'une histoire. Il faut que vous sachiez que j'aimerais tant que vous me répondiez quand même de temps en temps. J'ai envie de chanter que vous êtes belle, mais vous vous en fichez.
Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en 1027, interrogez les rues d'un gars sans oublier de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais saint, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète, monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casse les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me petit futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je joue le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marceau Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi qui ai laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les demi de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je ne vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de mes petits futurs, l'angoisse ou de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net, c'est radio-libertaire.org. Bonjour Jean-Mi. Aujourd'hui, je reçois à distance, depuis la Corse, Benoît Muracchiol. Benoît, bonjour.
Bonjour Mariama.
Alors, j'entends mal le retour, si c'était possible.
Ah.
Nous avons
est-ce
les petits
là,
soucis techniques.
Mieux.
J'entends mal le retour de Benoît. Je ne l'entends pas.
Il parle pas là.
Alors Benoît, là, mais, bonjour.
Oui, bonjour, rebonjour Mariama.
Bon, parfait. Alors Benoît, je t'invite parce que tu es le président de AZER. Je voudrais que tu présentes AZER et ensuite qu'on parle de ce pourquoi je t'invite, à savoir le contrôle démocratique des transferts d'armes et des biens à double usage vers Israël.
Alors, d'accord. Alors, AZER, c'est une ONG, une association qu'on a créée avec des amis quand on a démissionné d'Amnesty International et également avec des anciens officiers de police pour... faire en sorte de prévenir les graves violations des droits de la personne dans le domaine à la fois des transferts de matériel à utilisation à usage militaire et à usage du maintien de l'ordre. Et également surveiller le respect des droits de la personne dans l'exercice de la force publique. Donc sur ces deux axes-là que AZER a été créé et en 2011 et ce qui nous a permis de participer à la fin des discussions et négociations du traité sur le commerce des armes aux Nations Unies, donc à New York. Et puis, comme nous sommes une petite ONG, on est une vingtaine de militants et militantes, eh bien, on n'a pas du tout la capacité de mobilisation. C'est bien dommage, mais en tout cas, on ne l'a pas. Et du coup, on travaille beaucoup sur des actions juridiques. C'est-à-dire qu'on a... On a commencé, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, on a saisi un tribunal administratif pour demander la suspension des transferts d'armes vers les pays de la coalition qui était dirigée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, donc le Koweït, le Bahreïn, l'Égypte, etc., qui étaient responsables de crimes contre l'humanité, contre la population yéménite. Donc ça, c'est notre première action juridique, et puis après, s'en sont suivis d'autres, et notamment il y a deux ans, grâce à notre avocat, notre grand avocat, Matteo Bonaglia, nous avions obtenu, devant le tribunal civil, l'interdiction des entreprises israéliennes au salon Eurosatory.
Alors, Eurosatory recommence la semaine prochaine.
Oui.
Il y a un appel à manifester dès lundi à Villepinte.
Oui. Mmh.
Voilà.
Alors, Stop Arming Israël et BDS, là, qui font un travail formidable hein, sur cette démobilisation, vraiment chapeau.
Oui. Donc, si vous pouvez vous joindre à eux, il y a le site de Stop Arming Israël ou bien de BDS.org. Alors, Benoît, le jeudi 28 mai dernier, de 17h à 21h, il y avait un colloque organisé par la députée Elsa Faucillon, la députée du 92. Quel était l'objet de ce colloque ?
Alors, l'objet, c'était justement le contrôle démocratique. Est-ce qu'il existe un contrôle démocratique en France sur la question des transferts d'armes ? Alors, quand je dis transfert d'armes, pour ceux qui sont pas, qui n'ont pas l'usage de ce mot, ça veut dire exportation, importation, transit. Transbordement, c'est quand un avion ou un bateau ou un camion arrive dans un pays, décharge son matériel et le recharge dans un autre instrument de transport. Et également courtage, hein, les intermédiaires qui se mettent entre deux industriels ou entre un État et un industriel, etc. Et ça, c'est réglementé, ces transferts d'armes sont normalement réglementés à la fois par les États. Et dans le préambule du traité sur le commerce des armes, on a réussi à obtenir le fait que la société civile, qui est à l'origine de ce traité, soit aussi garante de la bonne application de ce traité. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés sur cette question-là. Et Elsa Faucillon, donc la députée du 92, souhaitait soulever cette question particulièrement concernant les transferts avec Israël. Et la question de savoir est-ce qu'il y a véritablement un contrôle démocratique sur ces questions-là. En regrettant que malheureusement, bon, alors, bien entendu, malheureusement, il n'existe pas, et en regrettant qu'il y ait également un système qui est au service des entreprises de l'armement. Avec toujours l'argument de l'emploi, plusieurs fois, les ministres disent « oui, mais vous savez, l'emploi est très important ». En gros, et vraiment au doigt mouillé, l'emploi dans l'industrie de l'armement, c'est peut-être 200 000 personnes. L'emploi dans la culture, c'est 1 million de personnes. Donc voilà, hein, pour vous donner un petit peu la force de cet argument-là. Donc, Elsa Faucillon, avec le groupe communiste, a déjà fait un projet de création d'une commission d'enquête justement sur les transferts et les biens à double usage. Les biens à double usage, c'est les biens qui peuvent servir dans le domaine civil et également dans le domaine militaire, de façon à ce qu'enfin il y ait un véritable contrôle parlementaire sur ces questions-là.
Alors, le contrôle parlementaire, il s'exercerait comment, Benoît ?
Alors, en 1997... Oui, non, il n'existe pas. Alors, ils ont créé une commission un petit peu sur le même type que la commission sur le renseignement, hein, et qui ne sert à rien. D'ailleurs, on les a contactés, on avait voulu les rencontrer, il n'y a personne, ils ne se réunissent pas, ils ne prennent aucune décision, et surtout, ils n'ont aucun pouvoir. Hein. En 1997, un collectif d'ONG en France demande la création d'un office parlementaire. Un office parlementaire, c'est l'idée de rassembler donc des sénateurs, des sénatrices et des députés pour justement avoir un regard sur les transferts d'armes des gouvernements français. Mais pour que ça ait une efficacité, il faut que ces parlementaires puissent avoir accès à toutes les informations. Or, en France, les informations de ce type, hein, c'est la commission interministérielle des exportations de matériel de guerre qui décide de la décision d'exporter, d'importer, etc., des transferts d'armes, eh bien, ces décisions sont classées secret défense. Donc, vous voyez un petit peu la difficulté pour un contrôle parlementaire. Donc, nous, on demandait à l'époque, et on demande toujours d'ailleurs, que le secret défense soit levé à partir du moment où il y a des crimes internationaux, comme des graves violations des droits de la personne, graves violations de la Convention de Genève, crimes de guerre, bien sûr, crimes contre l'humanité et génocide. Sans cette commission-là, on ne saura jamais véritablement quels sont les types de matériel transférés. Et ce qui est encore plus important, c'est que cette commission devrait avoir le pouvoir de suspendre des exportations quand justement elle viole les obligations internationales de la France. Donc pour Israël, je voyais bien de quoi il s'agit, c'est-à-dire qu'il y a un génocide à Gaza, mais n'oublions pas aussi qu'il y a des crimes contre l'humanité dans les territoires occupés. Et les obligations de la France, aujourd'hui, obligeraient le gouvernement français à suspendre tous les transferts avec Israël. Pas quelques-uns, pas ceux qui risquent d'être utilisés à, comme c'est le discours malheureusement d'Amnesty International, c'est tous les transferts. L'article 6 du traité sur le commerce des armes dit bien que quand un État, le transfert d'un État vers un autre État viole les obligations du premier État, eh bien, il doit cesser tout transfert.
Alors, les biens à double usage, qu'est-ce que c'est exactement pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça recouvre?
Alors, des biens à double usage, c'est, en plus, c'est que ça représente, vers Israël, ça représente une somme bien plus importante que pour le matériel de guerre. Ce sont des biens, donc, que je disais tout à l'heure, qui pourraient être utilisés à la fois dans le domaine civil et à la fois dans le domaine militaire. Et pourquoi c'est très important? Parce que de plus en plus, les industriels tentent de masquer le plus de choses et de transformer le plus de choses en civil pour éviter, bien sûr, le contrôle. L'histoire des drones, puisqu'on entend beaucoup parler des drones, eh bien, on est un très bel exemple. Un drone, au début, peut avoir une fonction tout à fait civile. Surveiller, par exemple, les risques d'incendie, etc. Et vous avez bien vu que, de par le monde, beaucoup de gouvernements ont développé des industries qui permettent d'armer ces drones et d'avoir un impact terrible sur les populations civiles.
Tout à fait. Notamment sur le terrain de l'Ukraine. Bien. Alors, les biens à double usage, le contrôle parlementaire, Madame Elsa Faucillon a obtenu un colloque. Qu'est-ce qui s'est dit pendant ce colloque?
Alors, elle a organisé avec son équipe, elle a organisé ce colloque. D'abord, c'était bien d'avoir cet événement au sein de l'Assemblée nationale, parce que quand même, le gouvernement doit être contrôlé par les parlementaires. Et puis, c'était bien aussi pour voir un petit peu quels sont les angles que chaque ONG imagine pour justement avoir un impact sur ces transferts d'armes irresponsables, illégaux et irresponsables. Alors, il y a Jean-Paul, le député Jean-Paul Lecoq, hein, qui est intervenu, député du Havre, qui est intervenu. pour dire la difficulté qu'il y a de transparence déjà, que même eux-mêmes, les parlementaires, rencontraient une grande difficulté de transparence. Si certaines ou certains d'entre vous ont eu l'occasion d'ouvrir un rapport au Parlement sur les exportations d'armes, vous pouvez le trouver sur le site d'Azer, azer-asso.org. Vous pouvez regarder sur les documents, les rapports d'exportation de la France. Vous allez voir, ce sont des nomenclatures qui sont très très larges. Alors ça commence à ML1, ça va jusqu'à ML23, 24, je crois. Et à chaque fois, au lieu de spécifier, par exemple, un type de munitions, un type d'armes à feu, etc., etc., on a un nombre de licences données et une somme globale. Ce qui est donc très difficile de faire les liens entre l'exportation de ce matériel de guerre avec, dans certains conflits ou dans certaines situations de répression dans un gouvernement, c'est difficile de faire le lien. Ce manque de transparence interdit aujourd'hui, bien sûr, les parlementaires de pouvoir avoir un mot à dire là-dessus. Alors, il y a quand même un certain nombre qui posent des questions au gouvernement, hein, souvent préparées par les ONG, mais on n'a jamais de réponse précise. Donc ça, c'est la première grande utilité d'avoir organisé ce colloque aussi. Et puis, pardon ?
Non, il n'y a pas de souci, tu peux continuer.
Et puis, ce qui est intéressant quand même sur la question des transferts, ça a été, c'est Jean-Paul Lecoq qui a notamment salué ça, c'est la mobilisation des dockers et des portuaires. Hein, avec BDS, il y a eu un gros travail qui a été fait. Il y a une coordination au niveau de la Méditerranée. Il y a un gros travail qui a été fait avec aussi certaines organisations non gouvernementales européennes pour identifier et tracer, par exemple, les cargos qui sont utilisés pour transporter ce matériel. Et ces cargos, quand ils passent dans un port français, même sans charger de nouveaux matériels, de nouveaux matériaux, et d'ailleurs, quand j'utilise le mot matériel de guerre, nous, dans les statuts d'Azer, on n'utilise pas matériel de guerre parce que ça peut être quelquefois assez restreint. On utilise matériel qui risque d'être utilisé, qui est matériel, pas risque d'ailleurs, matériel à usage militaire et usage du maintien de l'ordre. Hein, ce qui permet justement d'avoir une définition plus large de ce type de matériel. Et grâce aux portuaires et aux dockers, notamment au Havre, à Fos-sur-Mer, on a réussi à bloquer parfois ou à empêcher un cargo de transiter sur un port français. Mais normalement, si le gouvernement français était responsable, il aurait dû interdire tout transit de ce type de transport en France. Il y a un très bon rapport, il y a de très bons rapports qui ont été faits, notamment par Stop Army Israël, l'Observatoire des armements, le Youth Movement, Palestinian Movement, Urgence Palestine, qui montrent à quel point le gouvernement français a cessé de mentir concernant les transferts d'armes de la France avec Israël.
Alors, il n'y a pas que les portuaires et les ONG qui font du travail, il y a les journalistes. Je pense notamment aux révélations de Mediapart et de Disclose.
Oui, absolument. Oui. Alors, c'est un tout, c'est ça qui est bien et ce qui est un tout. C'est-à-dire que chacun arrive avec ses moyens à creuser dans cette question-là. Je dirais que notre grosse difficulté aujourd'hui, c'est l'abandon autrefois, quand on a commencé à travailler sur ces questions-là, et moi j'ai fait donc plusieurs missions, notamment en République pendant la guerre en République démocratique du Congo, on avait des chercheurs qui étaient payés toute l'année pour faire ce type de travail. Et c'était à l'époque Amnesty International. Et depuis, ça n'existe plus. C'est-à-dire que, heureusement, il y a des petites ONG qui continuent de faire de la recherche, mais elles n'ont pas les moyens qu'avait Amnesty. Et du coup, on a beaucoup moins de sources. Et on a de la difficulté à trouver. Alors, il y a, comme tu dis, des journalistes, hein, Disclose et Mediapart, qui continuent de faire ce travail. Bon, c'est déjà ça. Quelle chance que nous avons, mais il faudrait falloir réimaginer quelque chose pour pouvoir recréer un centre de recherche au niveau international sur ces questions des violations des traités internationaux par l'intermédiaire des transferts d'armes et des transferts de biens à double usage.
Alors, dans ce colloque, il y avait Azer. Donc, M. Lecoq a pris la parole, mais qui d'autre de percutant ?
Alors, il y avait Anaïs Schill qui représentait la CNCDH. Et ça, c'est très important parce que donc, la Commission consultative des droits de l'homme, hein, qui est donc qui peut émettre des avis, qui ne donne pas d'obligation, mais qui émet des avis et qui est sous la responsabilité du Premier ministre, hein, il me semble, et qui a émis un avis en 2025 en reprenant un petit peu toutes les demandes que nous faisions, notamment dans les saisies des tribunaux administratifs. C'est-à-dire que la CNCDH relève qu'il y a un droit au recours pour les citoyens. Hein, il est assuré notamment par l'article 13 de la CEDH, Commission européenne des droits de l'homme, qui permet ce droit au recours. Or, en France, quand on saisit un tribunal administratif, le gouvernement dit que les juges n'ont pas droit à être saisis, parce que c'est un acte de gouvernement, que c'est lié aux affaires internationales. Or, ça va exactement à l'encontre des engagements de la France. Hein, le gouvernement français, il est là pour appliquer les engagements de la France et des traités que la France a ratifiés. Et notamment le traité, bien sûr, sur le commerce des armes, et également la convention sur la prévention et la répression du génocide. Alors, et là, on se rend compte que cette absence de droit au recours empêche la société civile, empêche la société française de demander des comptes à un gouvernement quand il viole ouvertement les engagements internationaux de la France.
Alors, en
matière... Et elle, Anaïs Schill, l'a très bien mise en valeur. Mmh. Et ça l'a repris d'ailleurs avec... Vous savez, on travaille avec Euclide, l'Université du droit de Nanterre. Et on a fait pas mal de travaux avec eux. Ils ont sorti des rapports. Et l'année dernière, ils avaient sorti un rapport justement sur ce droit au recours, hein, que vous pouvez aussi trouver sur notre site, mais c'est quelque chose qui est absolument essentiel, sur lequel nous, Azer, nous ne lâcherons pas. Et c'était bien d'entendre quelqu'un, Anaïchi est une juriste, et c'était bien d'entendre d'autres échos, d'autres personnes qui viennent d'autres lieux, de pouvoir l'exprimer.
Oui. Alors, en matière d'acte de gouvernement, il y a une autre affaire qui est passée devant le Conseil d'État dans le cadre du génocide au Rwanda et qui est emmenée par un juge administratif, M. Philippe Raphaël, qui voulait qu'on juge au niveau des actes de gouvernement ce qu'a fait la France au Rwanda.
D'accord.
Donc, ça va servir de jurisprudence parce qu'il passe devant l'Europe, justement, parce qu'il n'a pas obtenu gain de cause en France.
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, il faut absolument. C'est c'est aussi une des leçons de nos expériences. C'est-à-dire qu'il faut absolument continuer à faire avancer la loi. Et on a besoin de ce type d'action pour qu'enfin les gouvernements français se mettent en ligne de des engagements internationaux de notre pays. Quoi. C'est quelque chose qui nous semble tellement de base, c'est incroyable qu'en 21e siècle, ça ne se fasse pas, quoi. Et ça, j'espère... Alors, il y a eu aussi, dans la première partie, il y a eu aussi une intervention d'Amnesty International. Et là, il y a un nouveau problème qui se pose, c'est-à-dire que quand le traité est entré en force, hein, au bout de, d'un certain nombre, je crois que c'était 50 ou 60, il fallait que 50 ou 60 pays ratifient le traité, et du coup il est rentré en force, ce qui donnait obligation pour les États parties comme la France de l'appliquer. Hein, c'est aussi l'article, je crois, 54 de la convention de notre constitution qui dit que les traités internationaux ont une
valeur supérieure à la loi
valeur
française.
Supérieure, voilà, une supérieure à la loi française. Et quand le traité est entré en force, le discours du gouvernement et de certains de ses représentants, c'était de dire, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, la position commune de l'Union européenne est plus forte et c'est là-dessus qu'on se base. Et ce qui est faux, hein, dans la hiérarchie des lois, vous imaginez bien qu'un traité qui est signé, qui est ratifié par plus de 118 États aujourd'hui, a bien plus de force que un traité au niveau de l'Union européenne, qui était une position commune, qui est devenue une décision commune. Mais le deuxième point le plus important, hein, c'était que dans la position commune de l'Union européenne, hein, qui est passée en 2008, hein, j'étais au cœur de cette histoire parce que j'ai persuadé le collectif de l'époque de faire passer un code de conduite en position commune pour obliger le gouvernement français et pour obliger également la représentation de l'Union européenne à New York à ne pas demander quelque chose qui serait en dessous des critères et de ce qu'on attendait, nous, ONG, dans le traité. Eh bien, leur grande discussion, c'était de dire oui, c'est la position commune. Or, la position commune ne dit jamais, n'a pas d'interdiction. Il n'y a pas un article d'interdiction comme pour le traité sur le commerce des armes. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand il y a des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes, des attaques ciblées contre les civils, bien sûr, crimes de génocide, graves violations de la Convention de Genève de 1949, eh bien, le gouvernement doit cesser de transférer des armes qui pourraient servir à ce type de choses. Et là, les ONG n'ont pas prouvé que ces armes pourraient servir. Et ils n'ont pas prouvé parce que les rapports des Nations Unies, les rapports des ONG internationales, des ONG nationales comme B'Tselem, par exemple, en Israël, montraient qu'il y avait des crimes contre l'humanité dans les territoires occupés avant même le 7 octobre. Hein, l'état d'apartheid avait été reconnu par notamment Amnesty International, B'Tselem, Human Rights Watch, etc. Donc le gouvernement français avait connaissance de cela. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il est obligé de cesser tout transfert avec Israël, ce qu'il ne fait pas. Et le problème, c'est que beaucoup d'ONG, alors à notre grand regret Amnesty International, continuent de parler de risque d'utilisation des armes. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'utilisation des armes en ce moment par l'armée israélienne en Palestine? Non, il n'y a plus de risque. Ils utilisent systématiquement depuis plusieurs années, puisque des rapports, encore une fois, des Nations Unies montrent que ils sont presque abonnés à ces crimes internationaux contre la population palestinienne. Donc c'est là où on dit toujours le diable se niche dans les détails, mais d'entendre ça de la part d'organisations internationales qui sont censées avoir quand même une certaine connaissance de ce type de loi, eh bien c'est dévastateur. C'est dévastateur à la fois pour les victimes et c'est dévastateur pour la mobilisation publique. Si on commence à mobiliser les gens en disant attention sur le risque d'utilisation des armes, alors que l'État est déjà engagé devrait déjà être engagé sur un arrêt systématique de tout transfert, l'impact n'est pas du tout le même.
On est d'accord.
Et ça permet, par exemple, au Premier ministre, qui était ancien ministre de la Défense, de continuer à mentir, de dire que la France a arrêté de transférer des armes. Et puis alors après, il dit non, mais en fait, on a arrêté de transférer toute arme offensive. Même le terme offensif n'a aucun sens, n'a aucune réalité sur le plan international. Il n'y a aucune définition sur le plan international de ce qu'est une arme offensive. Et à aucun moment, dans le traité sur le commerce des armes, il est dit que les États pourraient continuer à envoyer ce type d'armes. Non. La question, c'est est-ce qu'un transfert entre Israël et la France est possible ? L'article 6 dit non, il est interdit.
Merci Benoît. Nous allons faire une pause. Nous allons revenir sur le colloque.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net radio-libertaire.org. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Benoît Muracchiol. Benoît, je te reçois pour le contrôle démocratique des transferts d'armes et des biens à double usage vers Israël. Alors, revenons au colloque. Donc, tu as parlé de la position de certaines ONG comme Amnesty. Est-ce qu'il y avait d'autres paroles plus percutantes pendant le colloque ?
Alors oui, la deuxième partie, c'était sur la question de alors cette fois-ci, les ventes d'armes à Israël et la question de la complicité. Question qui est, bon, vous imaginez bien, très très importante. Et c'était pas mal la personne qui présidait cette table ronde. J'ai oublié juste de mentionner le fait que c'est Célia Aubry qui avait présidé la première table ronde et qui avait fait un travail tout à fait sérieux. Et pour la deuxième partie, donc c'est Alexandre Ribert-Mercé de l'association France-Palestine Solidarité avec qui on travaille beaucoup et qui, eux aussi, font un travail de mobilisation formidable. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose qui existe beaucoup moins, mais s'il n'y a pas de mobilisation, s'il n'y a pas de création de rapport de force au niveau de l'opinion publique, on n'obtiendra pas des juges, on n'obtiendra pas la justice. Hein. On sait que la justice, elle se fait aussi par des rapports de pouvoir. Et c'est la mobilisation de l'opinion publique qui le permettra. Et donc Alexandre Ribert-Mercé, qui s'est remarqué, il dit « Mais comment on peut se poser encore la question de savoir si la France est complice d'Israël dans le génocide et les crimes contre l'humanité ?» C'est vrai que la question est juste, mais c'était intéressant en tout cas de voir et de pouvoir entendre les arguments. Alors, il y avait Benjamin Fiorini, Benjamin Fiorini, c'est un professeur de droit international, mais surtout il est secrétaire général de Jurdi, c'est cette association qui a été créée, qui a réuni donc des juristes, des magistrats et des avocats pour le respect du droit international par Israël. Et il a expliqué de façon très très claire pourquoi il y avait une complicité et pourquoi les armes, pourquoi la question des armes est centrale autour de cette complicité. Alors nous, on cite très très régulièrement l'article 16, les articles 16, 40 et 41 de la Commission internationale des lois, parce que des Nations Unies, parce qu'elle dit que si un État aide un autre État à un acte illégal, eh bien cet État est responsable. Il a la connaissance de cet acte illégal. Hein, lors de l'avant-dernier comité de préparation de la conférence des États sur le traité sur le commerce des armes du mois d'août, là, au mois de mars, la représentante française a dit « Mais nous, ce qui guide nos décisions d'exportation, c'est notamment les rapports des Nations Unies. » Or, par là, elle signe bien la complicité de la France, puisque les rapports des Nations Unies, depuis longtemps, parlent d'actes génocidaires à Gaza, parlent de crimes contre l'humanité en Palestine. Donc, elle reconnaît par là que le gouvernement a bien connaissance de ces crimes internationaux et que malgré cela, elle continue d'exporter. Alors, j'ai déjà interrogé la délégation française au mois d'août l'année dernière sur le fait que la France continuait de transférer des armes avec Israël. Et des jeunes femmes qui étaient là disaient « Mais oui, mais ce ne sont pas les armes qui sont dans le traité sur le commerce des armes. » Et là, je lui demandais si je pouvais citer dans cet argumentaire, parce que il est absolument dévastateur. Elle voudrait dire, en gros, que eh bien, on respecte le droit international pour les armes, pour une liste d'armes qui est assez réduite, mais pour les autres, le gouvernement français reconnaît donc qu'il ne respecte aucun traité et donc qu'il est lui-même complice de ces crimes. Voilà. Bien entendu, elle s'est vite rétractée, etc. Mais pour vous dire à quel point l'irresponsabilité au niveau des délégués du gouvernement est aussi avancée. C'est-à-dire que jusque dans les années 2015, 16, même 17, quand on allait dans les rendez-vous dans les ministères, eh bien, on avait de la contradiction. On avait des gens qui étaient d'accord, pas d'accord. Il n'y avait pas qu'un seul discours au niveau des ministères. Même au niveau de l'Élysée, il y avait des gens qui étaient capables d'entendre des discours contradictoires. C'est fini. Ça a commencé sous Hollande. Tout d'un coup, il n'y a plus un discours contradictoire. Les gens n'ont plus la capacité de réfléchir et de prendre des décisions. Il y a bien eu, en 2016... un refus d'exportation pour des munitions en direction de la part du ministère des Affaires étrangères. À la CIEMS, cette commission interministérielle sur les exportations de matériel de guerre, eh bien, il y a des représentants du ministère des Affaires étrangères, il y a des représentants du ministère de la Défense et du ministère des Finances, en gros. Un ministère peut faire une objection en disant un refus d'exportation, en disant non, là, ça pose problème parce que, justement, ça va violer nos engagements internationaux. Donc, c'était le cas. Il y a des gens au ministère des Affaires étrangères qui ont dit non, il faut interdire cette exportation vers l'Arabie saoudite. Et c'est l'Élysée qui est intervenue pour faire sauter cette interdiction. Donc vous voyez un petit peu comment c'est construit depuis une bonne dizaine d'années. Et ça s'est aggravé encore plus avec sous l'autorité du président de la République, Macron. Les gouvernements français, à l'intérieur des ministères, on ne dit plus rien. On n'ose plus regarder la Constitution, regarder les engagements internationaux de la France et de dire... de donner son désaccord quand il leur semble que le gouvernement viole ses engagements. Ça, c'est, et ça, le fait de l'intervention de Benjamin Fiorini, elle est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a bien une complicité en France et il n'y a plus de lanceurs d'alerte pour dire stop, arrêtez-vous. Ça, c'est un des points qui a été soulevé. Après, il y a eu également l'intervention d'Urgence Palestine et de Thomas Emela, qui est un avocat, et qui, lui, a avancé la question de systémique de l'acte de gouvernement qui protège la complicité, ça, vous pouvez bien comprendre, mais également comment le système colonies amène ce déclassement d'une population par rapport à une autre et emmène la question des graves violations, emmène la question de l'apartheid qui elle-même c'est une production de cette conception coloniale des rapports entre les peuples qui emmène ces crimes internationaux. Ce qui a repris dans sa conclusion, ce qu'a repris Salah Hamouri, qui est cet avocat franco-palestinien qui a passé des années en prison, je crois qu'il a passé 7 ans en prison,
oui, 7 ans.
Torture, etc. Et qui relevait l'aspect systémique colonial dans lequel était enfermée la Palestine, et dans lequel on essayait d'enfermer les Palestiniens. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand Amnesty, à l'époque, s'était intéressé à la question des transferts d'armes, c'est parce qu'on s'était rendu compte, dans les années 80, c'était d'ailleurs des groupes britanniques qui s'étaient aperçus que Idi Amin Dada, la dictature d'Idi Amin Dada, avait été armée par des armes britanniques. Et donc, on avait pris conscience à cette époque-là que il y avait quelque chose de plus fort dans la prévention, d'en essayer de travailler sur la prévention des graves violations des droits de la personne, plutôt que d'attendre que les gens soient torturés, tués, et d'écrire des lettres pour demander ou leur libération, ou l'arrêt des tortures, ou en tout cas le passage devant la justice des responsables. Et le fait de travailler sur les armes, c'était quelque chose de stratégique. C'est-à-dire que si on travaille sur les armes, d'abord c'est une preuve matérielle. Beaucoup de ces preuves qu'on avait réussi à rassembler à l'époque quand il y avait des chercheurs qui étaient en charge de le faire, et qui posaient directement la responsabilité des gouvernements. Et qui met en valeur, qui met en lumière justement la responsabilité des gouvernements occidentaux. Quand on regarde, parce que bon, là, il s'agissait d'Israël et de la Palestine, mais vous voyez bien que le Soudan, le Sahel, la Libye dont on ne parle plus, la République démocratique du Congo, c'est l'estimation, c'est plus de 10 millions de morts depuis août 1998. On est dans des situations, et ces États ne fabriquent pas d'armes. Donc il y a bien la question de la complicité, quelque chose qui est ancré dans les systèmes, et notamment le système des Nations Unies, avec prédominance de 5 États, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie, la Chine, qui ont un droit de veto sur des résolutions qui seraient soutenues par l'immense majorité des autres États. Donc voilà, ça c'est aussi un aspect qui est très important dans le drame aujourd'hui que vit la Palestine.
D'accord, Benoît. Qu'est-ce que je veux dire ? Il y avait deux parties dans le colloque et une conclusion, si mes souvenirs sont exacts.
Voilà, c'est ça. Et la conclusion de Salah Hamouri, c'était vraiment de dire, bon, la complicité avait été très, très bien démontrée par Benjamin Fiorini. Alors, professeur de droit international. Et ce qui était intéressant, c'était aussi qu'il y avait Loïc de Stop Arming Israël qui, lui, était là sur la question aussi, toujours sur rapport de force, quoi. On ne fait pas un travail de mobilisation de l'opinion publique, bon, je l'ai dit, mais c'est tellement, tellement, tellement essentiel les gens qui avaient créé Amnesty dans les années 60, ils avaient compris ça, ils avaient compris que il fallait travailler sur le droit, il fallait travailler sur la recherche, il fallait travailler sur la mobilisation de l'opinion publique. Si on ne mobilise pas, les États ne bougent pas, on le voit bien. Donc, ça qui permet justement d'avoir l'écho de journalistes, le travail de Mediapart et de
Disclose.
Et de Disclose, et qui permet de mettre en lumière, il y avait quelque chose qu'on appelait à l'époque « name and shame », c'est-à-dire nommer et mettre la honte sur les agissements des États. Et on a besoin de cette opinion publique, et c'est vrai que c'est Loïc a beaucoup insisté là-dessus, et le travail aussi qu'ils font avec les salariés des entreprises de l'armement, qui parfois ignorent complètement ce qu'elles ou ce qu'ils font. Ce travail de fourmi qui est absolument essentiel. On ne fera pas bouger les choses. Et pour lundi, là, ce que tu as annoncé, bien sûr, la mobilisation
pour Eurosatory. Je te laisse présenter Eurosatory. On a obtenu une victoire. Il y a certaines armes qui ne seront pas présentées à Eurosatory par interdiction de la France.
Ouais. Alors c'est une victoire qui a un goût quand même
amer.
Goût très amer. Oui, parce que le gouvernement essaie d'enserrer et de noyer le plus possible, parce que le scandale est que une industrie israélienne puisse venir à Eurosatory. Le principe, je parlais tout à l'heure des engagements de la France sur l'interdiction. L'interdiction, elle concerne bien sûr les interdictions d'importation. Si une industrielle israélienne vient avec le matériel, et puis sur le courtage, c'est-à-dire le fait de mettre en relation des industriels. Et Eurosatory, qui est considéré comme étant
la vitrine,
le plus grand salon de l'armement au monde, me semble-t-il, mais que cet organisme, qui dépend quand même beaucoup du gouvernement, si le gouvernement décidait, d'ailleurs c'est presque ce qu'ils appellent, le COGES ou l'UFICAP, qui sont les organisateurs d'Eurosatory, il y a des moments où on a l'impression que c'est presque une demande, que le gouvernement décide pour eux. Mais COGES et UFICAP sont eux-mêmes impliqués dans cette question-là, parce qu'ils ont une charte. Eux-mêmes ne respectent pas la charte. Je l'ai dit tout à l'heure, le concept d'armes offensives et défensives n'existe pas. Et donc, ils devraient d'eux-mêmes interdire, sans avoir besoin de décision du gouvernement, puisqu'elle ne vient pas, devraient eux-mêmes interdire aux industriels israéliens d'entrer dans ce salon. Mais la bonne nouvelle, c'est que les salons d'armement occidentaux sont en train de perdre énormément de leur image, avec ce qui s'est passé donc déjà il y a 2 ans. C'est apparu aux yeux du monde que les pays occidentaux ne respectent le droit international que quand ça leur plaît, et que ça va leur poser un problème. Alors, on n'est pas sur une situation de court terme. C'est du sur du long terme, mais la place des pays occidentaux dans le domaine international est en train de sombrer. Avec en plus des excroissances avec ce qui se passe avec Trump, mais Trump, les gens semblent découvrir une Amérique, des États-Unis sans gouverner avec Trump, mais quand vous regardez avec Obama ou Biden, les exportations et les transferts d'armes entre Israël et les États-Unis n'ont pas diminué sous leur présidence. Donc on est bien sur un système. Les États-Unis soutiennent Israël parce qu'ils utilisent des armes, pour l'immense majorité, qui sont des armes états-uniennes, et qu'il faut montrer que les armes états-uniennes sont les meilleures du monde, et que du coup, pour pouvoir en vendre plus, on est dans un espèce de cercle infernal dans lequel les gouvernements quels qu'ils soient, occidentaux, continuent d'avancer. Alors, quand je dis occidentaux, je je voudrais surtout pas qu'on croie que j'exonère la Chine et la Russie, hein, puisque la Chine et la Russie font la Chine au Xinjiang, hein, c'est quand même aussi avec des armes, hein, que cette répression se fait, et puis également la Russie avec l'Ukraine, même si il y a effectivement eu de la part des États-Unis des provocations de longue date en prenant comme prétexte l'Ukraine, mais il y a quand même un pays, un État qui en envahit un autre et surtout qui cible les populations civiles.
Alors, je rappelle que Eurosatory, c'est à Villepinte. Et c'est du 15 au 18 juin prochain. Donc, dès 9h le matin, le 15, vous êtes appelé à venir manifester contre Eurosatory à Villepinte par les ONG qui luttent contre la banalisation du génocide et qui veulent informer sur ce qui se passe à Gaza et dans les territoires occupés. Donc, c'est Stop Arming Israël, en particulier BDS et d'autres.
Oui, la FPS, de mémoire comme ça, parmi Israël, BDS et Attac sans doute aussi. Enfin,
toutes.
Il y a vraiment.
Il y a une coalition très large.
Oui, voilà, c'est ça. Et de dire aussi, oui, que avec BDS France, l'UJFP, l'Union juive pour la paix, la FPS et Attac. Nous avons envoyé une lettre au président de la République pour demander justement le respect des engagements internationaux de la France et que cette lettre sera publique, et donc une lettre ouverte qui sera publique et publiée par l'Humanité vendredi prochain.
D'accord. Le journal L'Humanité. Humanité.fr pour ceux qui veulent se connecter pour le lire.
Voilà.
Alors Benoît, nous allons faire une pause et ensuite ce que j'aimerais c'est que tu reviennes sur une chose que tu disais dans le communiqué, c'est la date d'audience devant la Cour administrative d'appel de Paris pour la demande de suspension d'une licence ML3. On va en parler en troisième partie.
D'accord.
Que tu allumes au creux d'un lit pauvre ou rupin, pour le plaisir qui s'y consume dans la toile ou dans le satin, pour les enfants que tu ranimes au fond des dortoirs chérubins, pour les pétales anonymes comme la rose du matin. Thank you Satan, pour le voleur que tu recouvres de ton chandail tendre et rouquin, pour les portées que tu lui ouvres sur la tanière des rupins, pour le condamné que tu veilles à l'abbaye du Mont en l'air, pour le rhum que tu lui conseilles et le mégot que tu lui sers. Thank you Satan, pour les étoiles que tu sèmes dans le rebond des assassins, et pour ce cœur qui va quand même dans la poitrine des putains, pour les idées que tu maquilles dans la tête des citoyens, pour la prise de la Bastille même si ça ne sert à rien.
Qui s'exaspère à retrouver le doux agneau, pour le pinard élémentaire qu'il prend pour du château Margaux, pour l'anarchie. schiste à qui tu donnes les deux couleurs de ton pays. Le rouge pour naître à Barcelone, le noir pour mourir à Paris. Thank you Satan.
Pour la sépulture anonyme que tu fis à Monsieur Mozart, sans croire ni rien sauf pour la frime, un chien croque-mort du hasard. Pour les poètes que tu glisses au chevet des adolescents, quand pousse dans l'ombre complice des fleurs du mal de 17 ans. Pour la péché que tu fais naître au sein des plus raides vertus, et pour la nuit qui va paraître au coin du lit où tu n'es plus. Pour les ballons que tu fais pète dans la prairie comme des moutons, pour ton honneur à ne paraître jamais dans la télévision. Pour tout cela et plus encore, pour la solitude des rois, le rire à la tête de mort, le moyen de tourner la loi. Et qu'on ne me fasse pointer et que je chante pour ton bien. Dans ce monde où les muselières ne sont plus faites pour les chiens. Thank you, Salon. You are the birdman. Thank you, Salon. Thank you, salon. Thank you, salon.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net c'est radio-libertaire.org. Alors, nous sommes dans la troisième partie de l'émission avec Benoît Mureckel. Benoît, je te reçois pour tout ce qui est contrôle démocratique des transferts d'armes et des biens à double usage vers Israël. Et dans cette partie, nous allons aborder un dossier pour lequel beaucoup d'associations surveillent ce que vous avez fait et obtenu, à savoir une demande de suspension d'une licence ML3, munitions, pièces détachées et composants, vers Israël. Est-ce que tu peux rappeler la genèse de cette affaire ?
Oui. Depuis notre action à propos de la guerre au Yémen, donc qui date de 2018, on avait la volonté et la décision du Conseil d'État en janvier 2023 de nous dire que au fond tout recours en France était interdit parce que c'était un acte de gouvernement. On avait fait une demande à l'époque de suspension de demande générale, de portée générale de tous les transferts. Il nous est apparu avec toujours nos brillants avocats, parce qu'il y a Matteo Bonal, mais il y a aussi Paul Matonnet pour le Conseil d'État. On s'était dit que ce serait important d'essayer de renfoncer la porte qui était entrouverte en s'attaquant à une. Le Conseil d'État n'avait pas fermé complètement la porte et il nous semble que c'était possible de faire une demande de suspension sur une licence. Et donc nous avons choisi celle que nous avons pu parce que, en fait, sur ce fameux rapport au Parlement sur les exportations d'armes de la France, il y avait cette licence en ML3 donc qui correspond, on l'a su après, hein, au début, c'est tellement vague, hein, comme tu l'as dit. On a su après que c'était la société Eurolink à Marseille qui fabriquait donc des composants qui permettent aux balles d'être attachées les unes aux autres et donc de pouvoir être tirées en
rafale,
et notamment sur les populations civiles. Et donc, nous avions pris cette décision de réattaquer le tribunal administratif et c'était bien avant le 7 et le 8 octobre hein, que nous avions pris cette décision-là. Et puis, les événements, donc...
Se sont précipités.
Hamas, les crimes contre l'humanité de la part du Hamas, et puis après les crimes contre l'humanité à Gaza et le génocide à Gaza, etc., je dirais, a illustré de façon terrible nos arguments, quoi. Alors, là, il y a eu vraiment, là, il y a eu un problème de concertation entre les ONG, donc entre nous, parce que des ONG sont également intervenues, demandant la suspension de plusieurs licences, ce qui fait que le tribunal administratif a jugé que finalement ça revenait à faire une demande générale, et notre avocat Mathéo Bonal, il n'a même pas été reçu en audience par le tribunal administratif. Alors, nous avons fait appel, et depuis le 19 août 2024, donc ça va bientôt faire 2 ans, nous attendons une date d'audience pour qu'enfin soit jugée sur le fond la question que nous posons, et la question, de, encore une fois, de la responsabilité de l'État. Je vous dirais que les avocats sont assez pessimistes sur notre capacité de gagner sur ce plan-là, mais nous voulons aller jusqu'au bout, nous voulons aller encore jusqu'au Conseil d'État. Hein, nous avons là encore réfléchi avec Matteo Bonalia et Paul Matonnet, et puis les ONG qui sont ouvertes sur ces questions-là, de façon à continuer de pousser de pousser les juges à reconnaître quelle est la légitimité de la loi. Et là, de poser la question, effectivement, puisque c'était inscrit à la fois dans la Constitution et dans la Commission européenne des droits de l'homme, la question du recours. Le recours, c'est un droit fondamental. Et le gouvernement français, par cette espèce de passe-passe qui date quand même de Napoléon, donc vous voyez ce que l'apport de Napoléon à l'humanité au 18e et 19e siècle, pour faire sauter l'acte de gouvernement. L'acte de gouvernement ne devrait plus exister à partir du moment où il engage des crimes internationaux. C'est comme d'ailleurs pour le secret défense, c'est la même chose. Le secret défense doit être levé à partir du moment où il engage, où des crimes internationaux sont engagés. Quel est l'argument aujourd'hui pour le gouvernement français de mettre sous secret défense des exportations d'armes ou des transferts d'armes avec Israël pour la sécurité de la France? Quel peut être l'argument de cela? On sait que la sécurité, et c'est dans le traité sur le commerce des armes, le préambule du traité sur le commerce des armes, c'est la première fois que ça apparaît dans un texte des Nations Unies, la sécurité, la paix et le respect des droits de l'homme. Il n'y a pas de sécurité sans la paix, il n'y a pas de paix sans le respect des droits de l'homme, il n'y a pas de respect des droits de l'homme sans la sécurité et la paix. Ce sont les piliers des Nations Unies, c'est inscrit comme ça. Et tant que le cynisme des gouvernements continuera de faire croire que tout ça c'est une affaire de bon taux, nous aurons des drames comme ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit sur les cinq continents.
Benoît, alors, si vous n'avez pas dans un délai raisonnable, parce que 2 ans, ça fait beaucoup, une date d'audience, est-ce que vous pouvez aller devant l'Europe? Non, c'est pas possible. Il faut vraiment avoir d'abord l'étape du Conseil d'État.
Oui, je pense qu'il faut épuiser tous les
recours en France.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est aussi pour le... grâce à Action pour le Climat et COGERES, hein, qui sont deux ONG aussi françaises, qui ont semé le MBDA, qui est une grosse entreprise qui fabrique des missiles, notamment des missiles en France et à l'étranger, hein, en Grande-Bretagne et puis aux États-Unis. Eh bien, on les a rejoints dans l'assignation de la production d'un document auquel ces entreprises sont engagées sur le devoir de vigilance. Et ils nous ont remis un rapport qui est extrêmement faible, qui ne parle que des risques sociaux à l'intérieur de l'entreprise, mais qui ne parle pas du cœur de leur métier, pourtant, de cette fois-ci du risque d'utilisation des produits que ces sociétés produisent. Et là, il s'est agi d'une ailerette qui était installée sur une bombe grue 39, je crois que c'est 39, qui est fabriquée par Northrop Grumman et Boeing, et qui a été envoyée sur les populations civiles à Gaza, donc participation au génocide de Gaza. Et là, donc un crime contre l'humanité, le crime de génocide. Et là, nous sommes en train donc de constituer notre dossier, hein, à la fois les avocats de Action pour le climat et que COGERES et AZER, hein, avec la TEO, pour saisir le tribunal, cette fois-ci civil, pour sommer MBDA de faire face à ses responsabilités d'entreprise et à ses responsabilités. Tout à l'heure, c'est pour ça que je reparlais du travail que faisait Stop Arming Israël, de faire des tractages dans les entreprises, parce que souvent, disait-il, les salariés ne savaient pas
à quoi servait leur travail.
Voilà, où est-ce que c'était vendu et à quoi ça allait servir, quoi. Alors, un des grands arguments de MBDA, c'est de dire, ah oui, mais c'est un contrat qui a lieu entre MBDA Inc., donc États-Unis, et Boeing et Northrop Grumman. Mais sur le plan du droit et de la responsabilité des entreprises, c'est bien l'entreprise mère, l'entreprise MBDA France, qui est responsable. Et nous allons, une fois encore, continuer de mettre en lumière ces responsabilités. C'est pas parce que... alors là, en l'occurrence, il n'y a même pas eu de transfert. Hein, à notre connaissance, il n'y a pas eu de transfert, par exemple, de logiciels, etc., entre la France et les États-Unis. Mais le fait que ça se passe dans une entreprise qui dépend de MBDA France ne soutient, n'enlève pas la responsabilité de la maison mère. Et il faut, de toute façon, il s'agit toujours pour nous de mettre en lumière donc les responsabilités et l'illégalité des activités des entreprises de l'armement, et de les empêcher de dire, ah oui, mais puisque le gouvernement français nous autorise, donc nous pouvons tout faire. Non, le gouvernement français a une responsabilité, tout à fait, mais les entreprises de l'armement, telles qu'elles soient ou qu'elles soient implantées, ont également une responsabilité civile sur l'utilisation des produits qu'ils fabriquent.
Alors, en matière de devoir de vigilance, il y a une jurisprudence qui a commencé à être élaborée. La première entreprise qui a été poursuivie, c'est La Poste, pour un drame humain, c'est-à-dire c'est un sous-traitant qui s'est noyé en essayant de rattraper un colis sur ordre d'un manager. Et ce sous-traitant était en plus dépourvu de papier en règle.
D'accord.
Donc La Poste a été condamnée en première instance et relaxée ensuite. Mais d'autres ONG ont pris le relais, et notamment contre Total, pour tout ce qui est extraction pétrolière. Et l'action contre Total est en cours devant les tribunaux, et il y a de bons espoirs pour tout ce qui est le pipeline dans l'est de l'Afrique, EACOP. Donc,
et puis il y a également l'affaire Lafarge.
Tout à fait. Lafarge, c'est un cas d'école qui fait trembler les multinationales. Pourquoi ? Parce que les supérieurs hiérarchiques, les PDG et leurs supérieurs et leur entourage ont été condamnés pour financement du terrorisme et menottés et emmenés en prison à l'audience. C'était du jamais vu en France.
Oui. C'est pour ça que les juges... D'abord, les juges sont des êtres humains, ne l'oublions pas. Et puis, ils discutent entre eux et petit à petit, justement, en posant toutes ces affaires devant les tribunaux, et bien...
La jurisprudence se crée.
Il y a une prise de conscience aussi de leur part qui se fait. Hein. la Cour de cassation, donc pour Lafarge, elle dit lorsqu'une aide ou une assistance est apportée en simple connaissance de la commission de tel crime, sans qu'il soit nécessaire que le complice adhère au projet criminel. Ça, c'est essentiel.
Oui.
Avant la complicité, il fallait adhérer. Mais non, la complicité, c'est qu'on a la connaissance. Hein, c'est à nouveau, on retrouve ça dans l'article 6 du traité sur le commerce des armes. C'est-à-dire que les États, aujourd'hui, ne peuvent plus dire qu'ils n'avaient pas connaissance de ces crimes internationaux.
Voilà. Alors,
c'est le cœur de
la plaidoirie. Et ça renvoie à un dossier qu'on surveille et pour lequel on pense qu'il y aura une issue favorable. C'est l'affaire Excelia. Cette maison bombardée par un drone où il y avait 5 enfants qui jouaient sur le toit de leur maison pendant l'opération Plomb durci à Gaza.
Oui.
3 des enfants sont morts sur le coup.
Donc c'est 2008-2009.
Voilà, tout à fait. Et 2 autres sont gravement handicapés. Et dans le drone, on a retrouvé une pièce qui dirigeait ce drone avec marqué « Excelia, Made in Paris ». C'est pour ça que les rescapés de la famille ont réussi, grâce à l'aide d'ONG, à trouver un avocat courageux pour porter plainte contre la maison qui fabriquait, qui entre-temps a été rachetée par Excelia, justement. Mmh. Et l'affaire Excelia fait trembler l'industrie de l'armement. Parce que l'avocat part du principe que c'est en toute connaissance de cause que le capteur qui est un bien à double usage, a été vendu et utilisé dans ces drones, qui a tué ses enfants, qui a fait ce drame. Et l'avocat, c'est pas n'importe qui, c'est un avocat célèbre qui s'appelle Maître Joseph Braham et qui est spécialiste des dossiers très difficiles. Et il s'est illustré l'année dernière en ne faisant rien moins que d'attaquer la Banque de France pour complicité de génocide dans le drame du Rwanda. Donc ça vous donne une idée du personnage.
Oui, on avait travaillé avec eux sur l'affaire au Yémen.
Voilà, tout à fait. Donc c'est une affaire qui si elle arrive à terme, va changer la face de l'industrie de l'armement français et mondiale, vu que la France est le 3e exportateur d'armes, vendeur d'armes. Au monde.
Oui, même sur certaines années, là, il disait qu'il était passé deuxième.
Deuxième, tout à fait.
Il était passé dans la Russie. Oui.
Tout à fait. Tout à fait.
Oui, je pense que c'est une conjonction de différentes actions juridiques qui permet de faire avancer le droit et qui permettent. Parce que en 2019, on avait obtenu, toujours par l'intermédiaire de notre avocat Mathéo Bonal, et on avait obtenu une décision de juge de référé, alors qui n'avait pas retenu la notion d'urgence, parce qu'on avait demandé la suspension de matériel. Alors c'était des véhicules blindés légers qui devaient être chargés dans un cargo pour l'Arabie Saoudite. Et malheureusement, la juge n'avait pas retenu l'urgence, alors qu'on était vraiment en pleine guerre du Yémen, mais elle avait reconnu qu'il y avait un lien entre la souffrance du peuple yéménite et les exportations d'armes de la France.
C'est une première.
C'est une première, et ça veut dire que les gens réfléchissent, les gens avancent. Elle a bien entendu repris un argument que Matteo Bonali avait repris, qui correspond à un article du traité sur le commerce des armes, mais ce lien-là, le fait que ce lien-là soit reconnu par une juge, est absolument important. Donc, il faut accepter de ce temps qui est terrible pour les victimes, mais pour que petit à petit la conscience des juges se fasse, parce que c'est quelque chose de très nouveau. On est au 21e siècle et c'est la première fois au 21e siècle que le gouvernement est saisi pour la demande de suspension de transfert d'armes. Donc voilà, c'est un travail à moyen j'espère à moyen terme, mais peut-être à long terme, je ne sais pas.
En tout cas, on vous remercie toutes et tous de faire ce travail, parce que les images de ce qui se passe sur tous les théâtres d'opération dans le monde sont insoutenables.
Oui.
Et notre impuissance, on a le sentiment de l'impuissance, est insoutenable aussi.
Oui.
Alors, pour en revenir, j'ai oublié de dire qui était Elsa Faucillon. On la présente très vite, c'est la députée, membre de la gauche, démocratie et républicaine. Voilà, c'est la députée de la première circonscription de 92. Elle est communiste et elle a des interventions régulières sur ce qui se passe à Gaza.
Donc, oui, d'ailleurs, elle parlait aussi de la flottille, hein, de
l'événement
et de l'interception, encore une fois, en violation du droit international et le mauvais traitement et torture de certaines personnes de la flottille. Quoi. Oui, elle est très engagée sur la question de la Palestine et sur la question du respect du droit.
Mmh. De toute façon, en ce qui concerne la flottille, le parquet de Paris a ouvert des enquêtes pour tout ce qui a été mauvais traitement. Donc on attend.
Oui, alors ça me fait penser aussi que il y avait une captation qui a été faite lors du colloque. Donc peut-être que ça va être. Nous, on va essayer de bien sûr de la récupérer.
Oui.
On la mettra sur notre site, mais je pense qu'elle sera aussi sur. Je ne sais pas si elle sera sur un site de l'Assemblée ou sur. Voilà. Mais en tout cas. N'hésitez pas à regarder sur notre site.
Alors, tu redonnes l'adresse du site, s'il te plaît.
Donc, c'est azer-asso.org.
Bien. Alors, nous rappelons, Benoît, que Eurosatory commence le lundi 15, finit le mercredi 18. Donc, la mobilisation est sur tous les réseaux sociaux contre Eurosatory. Donc, rendez-vous à Villepinte, pour ceux qui le peuvent, pour empêcher ou entraver ce salon de l'armement qui est une véritable honte.
Oui. Bien. Oui, je vous engage tous à vous y rendre.
Bien. Alors, Benoît, avant qu'on ne se quitte, as-tu une dernière information ou mobilisation à nous donner ?
Alors, pas une information, oui. Rappeler que la conférence des États sera donc du 24 août au 29 août à Genève, que nous y participerons, que Azer sera présente. On sera trois présents pour commencer justement à former des gens sur ces questions-là. Et on a vraiment besoin... d'être plus nombreux. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce travail, qui est un travail qui n'est pas toujours très, très facile, mais qui est un travail essentiel. Vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez aussi nous soutenir, parce que ce sont des frais et qu'on en reçoit, vous imaginez bien, pas d'argent des gouvernements.
Ah non, ça
donc,
c'est sûr.
Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, sur le site, vous pouvez nous soutenir. Il est très bien fait, ce site-là. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. Et puis, toujours la question de la recherche, d'arriver à identifier, à tracer les armes. Ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et je crois qu'il va falloir, recréer quelque chose au niveau international pour pouvoir réunir les compétences. Quand on voit ce que fait The Youth Palestinian Movement, quand on voit ce que fait BDS aussi sur les transports, quand on voit ce que fait l'Observatoire des armements, il y a vraiment une capacité à le faire, mais il faut trouver il faut plus de gens. C'est la recherche, c'est quelque chose de très long, et il faut former des gens, il faut pouvoir les payer, il faut que ces gens puissent vivre, voilà, ça c'est une bouteille que je lance à la mer. S'il y a des gens qui sont intéressés pour créer ce pôle, ce serait formidable.
Bien. Alors, Benoît, je voudrais que tu rappelles une dernière fois l'adresse du site internet de Laser pour faire des dons et pour prendre des informations.
Alors, c'est azer-asso.org.
Bien. Mais Benoît, je te remercie infiniment. Je rappelle que le colloque avait lieu le jeudi 28 mai 2026 de 17h à 21h à l'Assemblée nationale, présidé par Madame Elsa Faucillon. Donc, il avait pour objet le contrôle démocratique des transferts d'armes et des biens à double usage vers Israël, en espérant qu'un jour ce contrôle démocratique s'effectue effectivement.
Oui.
Voilà.
Merci en tout cas, Mariam. Merci à vous.
Ben, c'est nous qui te remercions. Alors, nous allons remercier la personne sans qui il n'y aurait pas d'émission, le technicien, animateur, Jean-Mi. Jean-Mi, merci. Et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, faites attention à vous, portez-vous bien et restez à l'écoute de Radio Libertaire sur 89.4 FM en région parisienne et sur le net, c'est radio-libertaire.org. Merci infiniment et à dans 15 jours.
À bientôt.
À bientôt, Benoît.
Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en 1027. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casse les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me petit futur, l'angoisse ou de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui ai laissé ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du tout de Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rajac de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, y compris les mains. Pire que les nazis, j'entends Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les demi de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de mes petits futurs, l'angoisse ou de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains.
We'll be right back. en secret le loup. Et 50 kilos de patates. Un sac de sueur de bois, il te sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Un vrai magicien, un jour. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde.
Je pense que quand on mettra les cons sur l'orbite, ça va plus tout.
Faut tous tomber ou se sauver pour la prendre une décision.
Une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner.
Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
La connerie à ce point-là. Voilà, tu dis que ça devient gênant.
Finalement, c'est un peu sale vite dans la vie, non? Bah, il sert à rien de foutre.
J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse.
C'est pas une métaphore, non?
C'est pas une métaphore. C'est que t'as des phrases. En fait, moi, je suis... Ça, c'est une métaphore.
C'est une manie que tu as de cracher partout devant la race. C'est excessivement énervant.
Doute bien, t'as des excuses. Tu fais le dernier des métiers et ta mère était le plus beau code vérole tertiaire du département.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
Je vois les dents et je les soigne.
Je vais lui faire une ordonnance. Et une
stélaire. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Pour 4 points de Paris, on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.
Oh mais à couper, ça va encore tourner autour du trou de porte.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, ça pourrait vite tourner.
Tu marines dans le pinard comme des scuds dans l'eau. Ton sang plus globule, c'est du 11 degrés 5. Tu causes pas, tu dégueules.
Happy Birds.
T'es tendu comme une corde.
Mais non, je suis pas tendu.
Si t'es tendu.
Non.
Si je te dis que t'es tendu, c'est pas entendu, je suis pas tendu.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases.
On te sauve ou je te sauve et on prend des décisions.
Écoute, on te connaît pas. Et laisse-nous te dire que tu prépares des nuits blanches, des migraines.
Attention,
des nervous breakdown.
Une alerte à la population est en cours.
Tiens, de la part de Mickey Willis.
Oh, fais-moi le malin maintenant! On fait-moi le malin!
Salut les amanches et bienvenue dans votre nouveau Panam's Not Dead. Ce soir, on va se passer un live qui date de 2010-2011. Diagnostic Front. Un groupe de hardcore new-yorkais, parce que il repasse au même endroit, à la Marbrerie à Montreuil, le 20 juin. Voilà. Allez-y, c'est du bonheur. Et pour le coup, on vous passe le live d'il y a 15 piges. Allez, à bientôt les amanches et vive le feu.
Hello buddies, who are you? Thank you all for coming down here and joining us. We're celebrating a brand new record called My Life, My Way. Here's a new song for you. This is called City Street.
So what's it doing?
Let's go crazy, do it!